C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et avec Jean-Marie Colombani, ancien directeur du Monde. Bonjour à vous.
Bonjour Roselyne.
Alors les ailes de l'ambition poussent soudain chez Bruno Retailleau. Hier matin, le ministre de l'Intérieur, l'homme très bien coté à la bourse de l'opinion en ce moment, a annoncé sa candidature à la tête du parti Les Républicains. L'homme fort du gouvernement veut redonner des couleurs à son parti défait en 2012 et il pense qu'il est celui qui peut redresser les espoirs de la droite. Il a donc coupé le pied sous l'herbe de Laurent Wauquiez qui s'est empressé d'annoncer la même chose aujourd'hui. Idem pour Gérald Darmanin, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui donne une interview aux Parisiens pour annoncer un projet ambitieux pour la France. À qui le tour ? On peut dire ce soir que la bataille présidentielle pour 2027 est donc déjà lancée. La droite, déjà abîmée par les grands déchirements du passé, reprend sa guerre des chefs. On en parle avec Bruno Jeudy. Bonsoir à vous.
Bonsoir, Rosine.
Directeur de la Tribune Dimanche. Catherine Tricot, bonsoir ma chère Catherine.
Bonsoir.
Directrice de la revue Regard. Et bonsoir mon cher Roland Kerol, directeur de recherche associé à Sciences Po. Bonsoir à vous tous. Et en fin d'émission, la chronique de Véronique Ressoul qui nous parlera de l'intelligence artificielle. Alors, il a écrit aux adhérents « La droite est de nouveau écoutée et c'est pourquoi elle peut gagner ». Signé Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur ne cache plus son souhait de convoiter la présidence des Républicains, réfutant toute guerre et toute division. L'écoute.
Et quand on se présente à une élection, on ne divise pas. Voter, ça n'est pas diviser, bien au contraire.
Il ne peut en rester qu'un.
Ah non, mais ça, c'est la compétition, ce qui est parfaitement normal. Mais moi, il est hors de question que je m'engage dans une guerre, dans un conflit. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui me connaissent, ça n'est absolument pas mon tempérament. Absolument pas. Donc, pour faire une guerre, il faut être deux. Mais moi, il n'y aura pas de combattants de mon côté.
Jean-Marie, on a envie de dire, mais bien sûr, mais bien sûr.
Élémentaire, mon cher Watson, bien sûr.
Non, mais c'est quoi ? C'est la bataille de 2027.
Non, mais c'est vrai en même temps que venant des électeurs eux-mêmes, avec quelques élections partielles, il y a eu quand même des signes encourageants pour la droite. Il y a aussi le fait que la droite participe au gouvernement, LR participe au gouvernement, et donc participant au gouvernement retrouve une position enviable, une position où elle peut faire des choses, où elle peut se faire remarquer, et Bruno Retailleau est l'exemple même de cette possibilité-là, puisque en quelques semaines, à son poste de ministre de l'Intérieur, il a percé. Et il a trouvé aussitôt un écho dans l'opinion. Donc voilà. Alors après, il faut se souvenir que très vite, la droite avait quand même essayé, la droite LR, avait essayé d'organiser les choses, j'allais dire, dans le calme, avec l'accord qui était passé entre le président Ciotti, dis président parce qu'il est président de son propre mouvement, Éric Ciotti, et Laurent Wauquiez. Et cet accord était simple, consistant à dire à Éric Ciotti le parti, à Laurent Wauquiez la candidature à l'élection présidentielle. Et on marche comme ça et on avance comme ça. Donc les choses étaient en ordre. Simplement, ça n'a pas tenu puisque Éric Ciotti est parti de son côté dans son alliance avec l'extrême droite et donc a fait son propre mouvement, donc a cassé ce pacte. Et donc forcément, chacun reprend ses billes. Et là, il y en a trois qui sont en piste. Il y a donc Bruno Retailleau, évidemment. Il y a Gérald Darmanin, qu'il ne faut pas oublier, et Wauquiez, évidemment, aussi le président de la région Rhône-Alpes. Et Darmanin, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il a lui aussi marqué déjà par un certain nombre de discours ce qu'il entendait faire et qu'il entendait lui-même être candidat, puisqu'il a un projet pour la France, il travaille à un projet pour la France, etc. Donc on voit la droite revenir à son cas de figure assez classique, parce que dans l'histoire récente, il y a rarement eu de période où la droite était unie. Ouais. En général, d'ailleurs, d'être divisé, ça lui profitait plutôt. Mais quand vous aviez Jacques Chirac face à Édouard Balladur, ensemble, ils approchaient les 50% du pays. Là, aujourd'hui, on est quand même sur une portion congrue, donc je ne sais pas où cela peut aller, mais ce ne sera pas aussi facile que certains veulent le croire.
Alors, Bruno, est-ce que c'est une mauvaise manière, en quelque sorte, qu'a fait Bruno Retailleau à Laurent Wauquiez, puisque ce que vous disiez, il y a toujours le pacte entre les uns et les autres, c'est-à-dire, moi, je prends le parti, en l'occurrence, c'était Laurent Wauquiez, et toi, Bruno, Bruno Retailleau, Bruno, je dis, tu marques la droite au gouvernement, tu incarnes la droite au gouvernement. Donc là, il y a eu traîtrise, il y a eu... Est-ce que soudainement, Bruno Retailleau s'est dit, allez, j'y vais, boosté par, par l'opinion?
La question de savoir qui a fait la première mauvaise manière à l'autre, puisqu'il semble quand même que depuis que Bruno Retailleau s'est installé au gouvernement, il faut rappeler d'abord que pendant l'été, Bruno Retailleau avait encouragé Laurent Wauquiez à aller au gouvernement. Laurent Wauquiez a choisi de rester en dehors, de ne pas s'associer aux macronistes tout en soutenant un gouvernement où la droite serait présente, à Bruno Retailleau d'aller au gouvernement et à Laurent Wauquiez de travailler le groupe, le parti,
les idées
et l'élection présidentielle. Tout ça, c'est ce qu'on écrit dans les livres. Et puis après, il y a les faits. Et les faits, ça, entre le gouvernement Barnier et le gouvernement Bayrou, Bruno Retailleau a considéré que Laurent Wauquiez lui avait fait une mauvaise manière en essayant de l'évincer du ministère de l'Intérieur où il voulait rester. Parce que Bruno Retailleau a changé d'avis, en fait. Il a beaucoup changé d'avis, Bruno Retailleau, mine de rien, pour quelqu'un qui est plutôt solide. Il ne voulait pas aller au gouvernement. Finalement, il s'est retrouvé au gouvernement. Une fois au gouvernement, il s'est rendu compte que la droite, quand elle participe, la droite, quand elle redevient une droite de gouvernement, elle revigore la droite. Ouais. C'est la phrase qu'il répète.
C'est l'école Sarkozy, d'ailleurs. Quand on est dans l'action...
Bien sûr. Donc, Bruno Retailleau a changé d'avis. Il a bien vu l'intérêt qu'il avait à rester au gouvernement. Et je pense qu'il veut encore rester un certain temps, jusqu'à quand, on verra. Je pense que donc, la mauvaise manière, il considère que c'est Laurent Wauquiez qui lui a fait en essayant de l'écarter du ministère de l'Intérieur dans la formation du gouvernement Bayrou. Passons, c'est de la cuisine arrière, la cuisine politicienne. Moi, je crois quand même que ce ne sera pas si facile que ça, même si aujourd'hui, il apparaît comme le favori. Je partage l'avis de Jean-Marie, mais avec un autre point, qui est que lorsque vous êtes ministre de l'Intérieur, vous ne maîtrisez pas votre calendrier. Vous pouvez avoir, du jour au lendemain, l'opinion peut se retourner. Bavure policière, une succession de faits divers et votre cote peut dégringoler du jour au lendemain. Et faire campagne pour le parti quand vous êtes aux affaires, ça peut aussi poser une difficulté. Que fait aujourd'hui Bruno Retailleau? Il n'est pas à Grenoble avec ce qui s'est passé hier à Grenoble. Il a fait un banquet avec Gérard Larcher aujourd'hui. Vous verrez que ça deviendra vite un argument utilisé par Laurent Wauquiez. On va nous refaire le coup de la droite gentille contre la droite gentille. Wauquiez dans le rôle de la droite pas gentille et Retailleau dans l'autre. Je connais cette histoire par cœur. J'ai même écrit un livre sur la guerre Copé-Fillon. Je vous dis que ce n'est pas si simple que ça, que celui qui est favori aujourd'hui ne sera peut-être pas le favori dans 3 mois. On verra. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau a incontestablement grillé la politesse à Laurent Wauquiez, qui a trop attendu, qui, comme toujours, hésite trop longtemps avant d'agir. Et quand on prend pas les choses quand elles se présentent, et bien parfois, elles nous passent sous le nez.
Justement, là-dessus, Roland Cayrol, c'est vrai que l'école Sarkozy, c'était être en action, être au gouvernement et faire ce que les anglo-saxons appellent le storytelling, c'est-à-dire faire son propre calendrier aujourd'hui. Et Bruno Retailleau, est-ce qu'il ne va pas être effectivement pieds et poings liés par le fait qu'il a des responsabilités qui ne sont pas des moindres, qui est le premier flic de France, et faire campagne en même temps, ça ne va pas ensemble?
Sauf que c'est à lui de décider jusqu'à quand il reste ministre de l'Intérieur. Donc il peut choisir le bon moment pour partir. Non, je crois que, et de surcroît, j'ai bien entendu ce qu'a dit Bruno, je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, sauf que, en général, les cotes des popularités des ministres de l'Intérieur ne s'effritent pas, ne s'effondrent pas. C'est le poste où il faut être. Jadis, c'était le ministère des Finances. Depuis cette décennie, c'est le ministère de l'Intérieur. La sécurité est tellement présente dans le débat public, sur les chaînes de télé, etc., que c'est ça qui motive d'abord les gens. Et donc, celui qui donne des coups de menton à la télévision toutes les semaines, il est bien placé, je dirais, quels que soient les incidents qui se passent par ailleurs dans le pays. Ce qui est assez amusant, je trouve, dans ce film, qui est un film normal, c'est la compétition normale.
Oui, c'est déjà vu, comme
entre des gens qui souvent veulent être candidats à la présidence de la République. Mais ce qui est marrant, c'est que Laurent Wauquiez, une fois de plus, ne l'a pas vu venir.
Oui, ça,
il a quand même cette naïveté permanente de croire qu'il est le candidat naturel de la droite, alors qu'il y a toujours des gens pour se débarrasser du candidat naturel. Il ne l'a pas vu venir. Alors, je ne dis pas qu'il va de toute façon pas y arriver. J'ai quand même des doutes, parce que vous connaissez quelqu'un qui aime Wauquiez?
Alors, il est taxé d'insincérité.
Moi, je cherche. Je vois dans les études d'opinion, sa personnalité ne passe pas, parce que les gens ont le sentiment qu'il ne dit pas la vérité, oui, qu'il y a quelque chose derrière sa personnalité qu'il cache. C'est très embêtant pour se défaire d'une image pareille.
Ça tient à ce qu'il avait avoué lui-même, rappelez-vous.
Oui.
Ce qu'il avait alloué en disant mais ça, je le dis à la presse, mais ça.
Mais ça, oui.
Et donc, de discours, quand est-ce qu'il est sincère?
Absolument. Et du fait qu'aussi, il avait été pris en enregistrement, disant des choses à des élèves d'une grande école,
oui,
dont il disait qu'il ne l'aurait jamais dit en public. Voilà. Oui. Ça passe pas bien. Et Retailleau, il n'a pour lui que le ministère de l'Intérieur. C'est un cas exceptionnel de quelqu'un qui était très connu, des politologues, des journalistes, parce qu'il était président de groupe au Sénat et qu'il était très présent dans la production législative, mais totalement inconnu du public. On ne savait pas définir Retailleau. Il suffit qu'il soit à l'intérieur et au bout de 8 jours, tac, sa cote de popularité passe directement au-dessus des 25%. C'est quelque chose d'assez inattendu. Ça donne un match nouveau, attendu des amateurs, parce qu'on sait bien que ça ne peut pas durer. Peut-être que ça peut nous laisser espérer qu'en Amérique, le couple Musk-Trump finira un jour par se défaire exploser, aussi. Ouais. Voilà. Les couples les plus unis en politique, c'est jamais garanti.
Catherine, c'est vrai que Bruno Retailleau, ce n'était pas l'homme prévu au rendez-vous. C'est vrai qu'il était connu des journalistes, mais l'homme un peu providentiel de la droite, à part lui-même peut-être depuis seulement quelques semaines ou quelques mois, personne n'y avait pensé.
Alors, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine constance dans ses engagements, qui a été très présent au moment de la grande bataille sur les retraites, contrairement à Wauquiez, qui, lui, s'était fait porter pâle.
Il s'est fait porter pâle sur plein de sujets.
Beaucoup de sujets. Je reviendrai une seconde sur Wauquiez. Mais Retailleau, lui, par contre, s'était engagé pour que cette réforme des retraites soit votée par les sénateurs, ce qui a été décisif à ce moment-là.
C'est vrai.
Donc, c'est quelqu'un qui s'engage de longue date et qui a une colonne vertébrale. C'est quelqu'un, on pourrait dire sans se tromper trop, que c'est un conservateur. J'aurais même tendance à dire parfois que c'était un réactionnaire libéral. Et il a ces convictions-là très ancrées en lui et depuis longtemps, et il se bat dessus. C'est un homme de conviction et d'engagement. La seule question qu'on peut se poser pour ce qui concerne Retailleau, c'est est-ce que ça fait un président de la République ? Ça, je ne crois pas. Je pense que je pense que là, problème d'être ministre de l'Intérieur, c'est que ça le met simplement et ça le circonscrit dans les enjeux, je dirais, du régalien de l'intérieur. Quelqu'un a dit méchamment qu'il était ministre des OQTF, ce qui ne fait quand même pas tout un programme pour la France. Ça ne lui donne pas beaucoup d'air pour avoir un point de vue sur la France. Je pense que les Français n'attendent pas simplement un discours sur l'immigration, les mariages blancs et les OQTF. Ça ne suffira pas pour se faire élire président de la République. Donc je crois que ça, c'est un risque pour lui et c'est une difficulté pour la droite dont elle ne se sort pas, en fait, depuis Sarkozy. Elle n'arrive pas à constituer un discours suffisamment ample qui corresponde à la modernité du temps. C'est-à-dire, c'était un petit peu l'espoir de Juppé qui a été douché par François Fillon, mais qui était quand même à la recherche de la France d'aujourd'hui. Et pas, je peux le dire quand même, je pense que Bruno Retailleau parle d'une France et parle à une France qui n'est pas tout à fait la France contemporaine.
Mais alors, ça va faire combien de personnes perchées sur la corde, là ? Parce que est-ce qu'on peut y mettre Édouard Philippe, Gérald Darmanin,
Rosine, là, d'abord, là, c'est la
corde.
Là, c'est la corde.
La corde de la présidentielle.
Oui. C'est
là, de la
non, mais c'est là où on est quand même sur quelque chose d'assez rétrécif.
Bah, voyons pas naïf.
Ça, c'est, j'allais dire, ce qui se passe là, c'est un peu la primaire LR.
Oui.
Ensuite, la vraie question, j'irais même la seule question, c'est est-ce que ce fameux bloc central, socle commun, est capable d'avoir un seul candidat ? Parce que la question d'avoir un candidat LR, soit, mais un candidat LR ne peut pas gagner seul. Il ne peut gagner qu'en élargissant à la Macronie de droite, enfin au centre-droit, et même jusqu'au cercle de centre-gauche qui soutiennent le président de la République. La question, c'est est-ce qu'ils sont capables d'avoir un seul candidat ? Et là, pour le coup, il y en a pas mal sur la corde. Édouard Philippe, pour l'instant, est le mieux placé parmi tous ces candidats. Je ne crois pas tellement aux chances des autres. Je pense que Gérald Darmanin produit un discours. Pour le coup, Gérald Darmanin a peu profité de son passage au ministère de l'Intérieur. Il n'est pas devenu un ministre populaire. C'est la différence, sans doute, avec Nicolas Sarkozy, avec d'autres. Et il a un discours qui est quand même quelqu'un qui essaie de de courir et de, j'allais dire, de s'échauffer pour la présidentielle suivante, pas forcément 2027, et qui veut prendre son ticket après un coup d'Edouard
Philippe. Pour le prochain management.
Et puis auprès d'un autre, un autre.
Darmanin, il identifie quand même un peu la question du monde populaire, ce qui est assez loin, à mon avis, de l'horizon de Retailleau. C'est pour ça que je crois que Retailleau est, sur un spectre très étroit.
En creusant beaucoup.
Il faudrait creuser beaucoup pour trouver le populaire chez Retailleau.
On évoquait tout à l'heure Chirac-Balladur. Chirac-Balladur, ils incarnaient chacun une certaine idée de la droite. Ils ont plus jacobine côté Jacques Chirac, plus girondine côté Édouard Balladur, mais il y avait un vrai débat, une vraie... Là, il n'y a plus ni programme ni rien. Il y a un seul corpus et c'est un discours purement sécuritaire. Et de ce point de vue-là, moi, je voudrais faire quelques remarques. Regardez Bruno Retailleau, c'est-à-dire sur l'art et la manière qu'ont les dirigeants de la droite aujourd'hui de se réfugier derrière des mots, et ces mots-là, ils manient de la dynamite. Bruno Retailleau a exprimé son émotion après l'horrible assassinat de cette fille, Louise. Émotion qu'on pouvait évidemment partager. Il était d'ailleurs très sincèrement ému en le disant. Et puis il rajoute, c'est l'ensauvagement. Donc il rajoute tout d'un coup une espèce d'analyse qu'il pose sur un événement de cette nature, comme si il était temps déjà de prendre du recul, d'avoir analysé les choses pour savoir si la société, c'était vraiment une des marques de l'ensauvagement, c'était nouveau ou pas. C'est-à-dire on fait tout de suite appel à un réflexe qui est un réflexe d'ailleurs utilisé par les populistes. Donc ça ramène la droite dans son jeu de course permanent vis-à-vis de l'extrême droite. Et je trouve que c'est très dommageable. Parce que ça, voilà, parce qu'on va trop vite, on ne réfléchit pas et on appuie tout de suite sur... Autre exemple, le fait que Darmanin ressuscite le droit du sol. Le droit du sol, qui était une conquête d'ailleurs, entre autres, 1804, Napoléon Bonaparte, le droit du sol n'a été interrompu qu'une fois dans notre histoire, vraiment, Vichy. Donc voilà la droite aujourd'hui qui ressuscite une revendication sur le droit du sol dont l'ennemi était Vichy. Est-ce que ces gens-là qui se réclament en permanence du gaullisme se souviennent de ce que c'était que le gaullisme et se souviennent de qui étaient les adversaires du gaullisme? Absolument pas. C'est comme s'ils étaient sans histoire, sans racines, ne sachant vraiment plus rien de rien. Donc c'est ça qui est dangereux dans la période actuelle. C'est que c'est la prime un peu au n'importe quoi, pourvu qu'on appuie sur une corde qui est censée dire quelque chose à l'opinion. Ah ben, il suffit pour régler le problème de l'immigration de supprimer le droit du sol. Ben allons-y, je veux dire, mais personne ne peut croire à cette histoire-là. En revanche, ça fera des dégâts profonds dans la société française parce que ça met un terme à une tradition, une très longue tradition qu'aucune république n'avait interrompue. Aucune république, sauf l'État de Vichy, qui n'était pas une république.
Roland.
Oui, moi je suis d'accord avec Jean-Marie. Je crois que c'est même encore un peu plus grave que ça. C'est-à-dire que je crois que la droite est privée d'un programme par le fait que Macron existe et que le programme du droite moderne, c'est la gestion Macron. Et du coup, la tentation naturelle de la droite classique, c'est de copier le programme de l'extrême droite. Et cette histoire du droit du sol, je crois que c'est dramatiquement significatif. La gauche proteste en disant c'est insulter la République. Mais si c'est possible, c'est plus grave que ça. C'est pas Napoléon. Le premier décret royal, c'est 1315.
Oui, c'est vraiment très
et
très
le décret
loin.
Royal définitif, c'est 1515, l'année de Marignan. Ça veut dire que c'est quelque chose qui appartient non pas à l'histoire de la République, mais à l'histoire de la nation. Sauf en effet la petite parenthèse de Vichy. Mais la nation tout entière s'est donné le droit du sol comme identité. Comme aux États-Unis. Nous sommes deux pays, la France et les États-Unis, qui se sont conçus et développés sur le droit du sol. C'est pour ça qu'on a dit que c'était des pays d'immigration qui ont profité, entre guillemets, du droit du sol et que ça en fait une marque identitaire. Et moi, que des gens qui prétendent défendre l'identité nationale s'en prennent à un principe fondamental de notre identité française, je trouve que c'est absolument incroyable et, je dirais, inadmissible, incompréhensible. L'identité nationale, c'est notamment le droit du sol.
Qui est sacré.
Absolument.
Bruno, peut-être un mot sur... Lorsque Bruno Retailleau dit que la droite a repris des couleurs dans les élections partielles, et on l'a vu, est-ce qu'il pense sincèrement que c'est grâce à lui? Est-ce qu'il pense que c'est dû à son action? Parce que, comme on vient de le rappeler, il peut dire des choses absolument... certains considéreront comme gravissimes ou des choses énormes. Et malgré tout, ça passe. Et il est dans l'opinion plutôt bien vu.
Alors, première question, oui, il pense que c'est sa présence, en l'occurrence, le retour de la droite au pouvoir qui revigore la droite. La droite forte, la droite qu'il incarne, c'est lui qui en est le principal visage. Il y a quelques autres ministres LR, mais qui sont moins connus ou sur des secteurs plus techniques, comme l'agriculture, Madame Genevard. Mais oui, il pense ça, et il pense que ce qui s'est passé à Villeneuve-Saint-Georges, dans l'Isère, voire même dans l'Est, où le candidat avait été éliminé au premier tour, mais avait fait un meilleur score que la fois d'avant, il pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est une analyse qui est juste, mais qui est très fragile, parce que des partiels, ça reste des partiels. Et n'extrapolons pas trop un scrutin national. En revanche, que la droite aille mieux, que finalement elle soit en mesure même d'organiser ce débat entre deux personnalités, montre quand même qu'il se passe un petit peu quelque chose. On ne peut pas non plus dire que Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez soient des personnalités qui n'existent pas. C'est plutôt des personnalités qui sont ton sur ton, qui pensent la même chose, qui sont tous les deux plutôt des intellectuels, voire un peu idéologues pour Bruno Retailleau, un peu plus pragmatique pour Laurent Wauquiez, mais c'est quand même plutôt cette tangence-là d'une droite qui revient sur des bases franchement régaliennes, qui a réglé la question économique avec un positionnement libéral, un peu plus étatiste peut-être pour l'un que pour l'autre, mais globalement, ils pensent pareil. Donc là, on est sur un débat de personnalité. On n'est pas sur un débat d'idées comme ça pouvait être le cas du temps de Chirac et Balladur, au moins sur la campagne de 95, qui était quand même partie sur des bases très opposées s'agissant de ces deux candidats. Donc là, on est vraiment sur un débat de personnalité et quand même sur fond d'une droite revigorée, qu'on le veuille ou non, même si là, il y a eu un sondage IFOP cette semaine, on en pense ce qu'on en veut, c'est des législatives anticipées qui permettent de mesurer bloc par bloc. Ça vaut pas grand-chose, mais ça montre quand même qu'elle n'a pas disparu comme on semblait le voir venir après les élections 2022, rappelons assez catastrophique, avec Valérie Pécresse sous les 5%.
C'est l'échec d'Emmanuel.
Et c'est l'échec de Macron, qui au fond a cru absorber la droite, et c'est peut-être la droite qui est en train d'absorber le macronisme.
Alors la France droitisée, c'est le pari de Bruno Retailleau. Catherine, peut-on y voir un retour des valeurs d'autorité, notamment avec, dans ce bloc central, avec le texte de Gabriel Attal sur la réforme de la justice des mineurs. Je rappelle que c'est un texte beaucoup plus répressif. Alors, il y a eu l'ordonnance de 45 et depuis, les textes se sont empilés. Il y a eu Nicole Belloubet et aujourd'hui, ce que veut faire Gabriel Attal, puisque son texte est passé en quelque sorte, c'est qu'il se passe moins de temps entre la condamnation et l'exécution de la peine. Ça a été adopté. Donc, sur l'autorité et la sécurité, là, ces valeurs ne semblent plus simplement des valeurs dites de droite. Et Gabriel Attal, il vient de la gauche. Donc, est-ce qu'il y a une forme de droitisation des esprits ?
Non, mais le fait que gens viennent de la gauche, je veux dire, il faut, quand on fait un parcours, on ne peut pas toujours se référer au fait que l'on a été. Je veux dire, Gabriel Attal n'est plus à gauche, comme Manuel Valls n'est plus un homme de gauche. Enfin, je veux dire, il faut... Voilà, ce sont des hommes qui ont rompu avec la gauche et que la gauche ne reconnaît pas comme leur. Enfin, je veux dire, aucun homme de gauche,
J'entends, on aurait pu imaginer qu'ils ne votent pas tous comme un seul homme. Enfin, ils ont été...
Il y a quelques... Parmi les élus, quelques-uns qui ne décident de pas complètement céder à cela. Je me souviens plus comment s'appelle celui qui essaie de tempester sur les problèmes d'immigration parmi les macronistes, qui est sorti d'ailleurs du groupe macroniste.
Non, il y a Roland Lescure qui est le principal.
Non, je ne parle pas dans les groupes, enfin peu importe, parmi les députés. Sacha Houlier qui essaie d'appeler, il appelle ses collègues à le rejoindre et à rester fidèle aux valeurs de 2017 qui se paraissent bien, bien loin.
Mais le fait que le texte ait été voté, Catherine.
Ça montre que la droite est majoritaire à l'Assemblée nationale, ça je le crois. C'est-à-dire que je pense en effet qu'il y a une évolution de la Macronie qui est devenue, ce que vient de dire Bruno, c'est en fait, elle a voulu absorber la droite et elle est devenue de droite. Enfin, je veux dire, c'est ça qui s'est produit. Aujourd'hui, je ne sais pas quels sont... Il y a des électeurs macronistes qui... moi, j'en connais un certain nombre dans mon milieu professionnel. Il y avait pas mal d'architectes, d'urbanistes, etc., qui avaient cru en Emmanuel Macron et qui maintenant en sont repartis. Mais ça, c'est un petit groupe. Les l'essentiel des gens sont restés, ils ont fait leur conversion du côté d'une droite. Et en effet, c'est un bloc, il y a un bloc majoritaire, un bloc assez soudé. Ceci étant, c'est vrai qu'ils sont assez soudés, donc ils ont des rivalités entre eux. Ils ont le problème du bilan d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que malgré tout, faire une candidature commune de tout ce monde-là avec le bilan d'Emmanuel Macron qui, sur le plan économique, n'est quand même pas tout à fait brillant, quoi qu'ils nous en disent, ça va être compliqué quand même. Et donc, du coup, on se raccroche aux valeurs régaliennes et on explique qu'on va mettre les jeunes enfants, les mineurs. Parce que tout à l'heure, Roland Cayrol rappelait l'histoire du droit du sol. Enfin, avoir une justice pour les mineurs distingue des adultes, parce qu'on considère que les enfants sont des enfants, qui sont en devenir, et qu'on doit considérer cela absolument comme fondamental.
C'est pas remis en cause par le.
Par exemple, ce que propose Gabriel Attal, c'est la comparution immédiate. Là, la comparution immédiate, c'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de former votre défense et que vous êtes jugé immédiatement. Au lieu d'avoir de la considération pour le
fait. C'est la considération des juges, ça dépend de la gravité.
Oui, c'est la
considération
des juges quand même.
Peu importe, ce que je veux dire, c'est que ce que l'on relativise, c'est le fait que ce sont des enfants. Et ça, véritablement, je considère que ça fait. Ça date de la Libération, cette justice qui considérait que les enfants sont des enfants et qu'à ce titre, ils ne peuvent pas être jugés comme des adultes, ni incarcérés avec les adultes.
Je crois que la proposition de loi s'inscrit dans le cadre de multirécidivistes qui sont mineurs et qui retournent dans leur quartier et souvent au grand dam des habitants, des élus, des responsables d'associations qui ne veulent pas les revoir.
Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas un problème avec des enfants. Je veux dire, de ce fait, d'ailleurs, il y a eu toujours cette question-là, des bandes rivales, etc., les enfants qui étaient à la rue, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui existe de tout temps.
Mais qui se reproduit quand même assez...
Il n'y a pas une aggravation de la délinquance chez les mineurs.
Non, mais elle est plus violente.
Elle est plus violente.
Gérald Darmanin, allez-y.
Simplement, moi, je ne sais pas si la France se droitise, comme vous avez dit, c'est plus compliqué que ça.
C'est une question.
C'est pour ça que je ne sais pas y répondre aussi simplement que ça, parce que c'est vrai sur certaines valeurs et pas sur d'autres. Il y a en même temps, comme disait un écrivain célèbre, une passion de l'égalité dans ce pays qui existe toujours et qui vient cogner contre un certain nombre de valeurs de droite. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une volonté du tour de vis. Il faut tourner la vis. Il y a une demande majoritaire de cette société parce que on leur parle sans arrêt de la délinquance, de l'insécurité, une volonté, quels que soient les grands principes auxquels on adhère par ailleurs mollement, mais quelle que soit l'acceptation des grands principes républicains ou nationaux, et ben tant pis, s'il faut les violer un peu, il faut donner un tour de vis. Et ça, c'est une demande très profonde. Et à mon avis, c'est là-dessus que quelqu'un comme Attal, comme tous ceux dont on a parlé jusqu'à maintenant, vient se greffer. Il pense à la présidentielle et il pense qu'il n'y a pas d'autre majorité possible que celle qui sera constituée par l'actuel bloc central plus la droite, toute cette droite qui vient de la droite républicaine. Et pour séduire cet électorat, ben c'est vrai qu'il faut donner le tour de vis. Il a pris l'habitude, quand il était ministre de l'Éducation nationale, toutes les mesures qu'il a proposées étaient des mesures de la droite classique. À part la baïa, qui est une histoire.
Non, mais le fameux mais sur l'éducation, pas,
sur l'éducation, sur l'enseignement,
pas,
sur l'ordre, c'était les mesures du sac à provision habituel de la droite classique. Partout où il est passé, c'est ce qu'il a fait. Alors, on me dit, il a été socialiste. Il paraît qu'il aurait été 10 ans membre du Parti socialiste. Nous n'avons pas la preuve, nous n'avons jamais vu la carte du parti.
Il a été membre d'un
cabinet ministériel d'une socialiste. Ouais. Est-ce que ça en fait? Non, ça en fait rien. Ça en fait quelqu'un qui a toutes les qualités de l'homme politique moderne. Il n'a pas de conviction. Il s'adapte aux sondages. Il s'adapte aux demandes de la société. Et les demandes de la société, elles sont, je le disais, pour le tour de vis. Et il est dans cette logique.
Le principe démagogique, je suis leur chef, donc je les suis.
C'est ça.
Mais c'est ça, exactement. Mais cela dit, il y a aussi en France, malheureusement, un effet Trump. Et qui, c'est l'homme fort. Vous voyez, regardez ce que ça donne. Il prend des décisions comme une mitrailleuse. Et tout ça va changer l'Amérique. Oui, ça va changer
l'Amérique.
Oui,
c'est pas un héritier Jean-Jacques Rousseau.
Parce qu'il entame une vraie, non, il entame une vraie contre-révolution aux États-Unis. Il va, à mon avis, défaire pierre à pierre la République américaine. Mais peu importe, ce que les gens voient aujourd'hui, c'est le discours fort, l'efficacité. Et malheureusement, il y a un effet de cela aujourd'hui. Hélas, comme il y avait à un moment un effet Poutine
aussi.
Oui,
mais quand Gabriel Attal, je veux pas être l'avocat du diable, mais lorsqu'il dit... sur l'ordonnance de 45, c'est-à-dire sur la justice des mineurs, il dit les jeunes de 45 et les jeunes de 2025, c'est pas les mêmes.
C'est pas les mêmes, bien sûr, parce qu'on ne peut pas dire les deux assassins qui ont 15 ans et 16 ans, on peut pas dire c'est des enfants, parce qu'ils sont dans une culture...
Pour le meurtre d'Elias.
Et une culture de la violence, etc. Mais néanmoins, la
force de l'extrême droite, c'est la même que celle de Trump.
Oui, oui.
C'est cette espèce d'évidence de café du commerce. Ben voyons, c'est comme ça, on sait bien où la vérité. Et cette espèce de façon de faire de la politique comme du café du commerce, c'est en train d'avoir droit de cité chez Trump comme chez nous.
Exactement.
Et est-ce que, quand même, peut-être un mot sur, est-ce que l'annonce de l'envie de Bruno Retailleau, de prendre le parti, j'imagine, de concourir en 2027, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen? Est-ce que ça peut un peu freiner son électorat qui pourrait, du coup, être séduit par la droite de
Retailleau? Il y a deux niveaux d'analyse. Un, elle domine... de manière écrasante dans les sondages. Elle a beaucoup progressé. On l'a vu aux élections européennes avec la liste de Jordan Bardella, mais aussi à la dissolution. Le groupe est maintenant 89, c'est quand même le premier parti. Donc elle n'est pas franchement entamée. Mais quand même, l'arrivée de Bruno Retailleau a quand même inquiète un peu les chefs du RN. Ils inquiètent quand même, puisqu'on voit bien leur façon maintenant de s'attaquer à lui.
Juste pour compléter, il y a une image qui restera, c'est l'image de Madrid. Où est-ce qu'elle a un vrai plaisir à être là, une vraie adhésion, une vraie fraternité presque entre eux? C'est quand toute l'extrême droite européenne se rassemble à Madrid. Là, elle est dans son élément, et elle est dans un discours totalement anti-européen qui fait bien sourire quand on parlait de sa dédiabolisation. Non, elle ne croit pas davantage en l'Europe.
Elle n'a pas changé, comme dirait un chanteur.
Absolument. Et ça, je pense que c'est une image qui restera.
Merci. On accueille Véronique Ressou pour la politique sur les réseaux. Bonjour ma chère Véronique.
Bonjour.
Alors on a vu cette semaine que le sommet sur l'intelligence artificielle avait marqué les esprits et le champion français Mistral a été découvert par un bon nombre de Français.
Ben oui, imaginez, chère Roselyne, que vous avez une étude de Médiamétrie qui vient de sortir qui dit que un Français sur cinq en décembre a essayé un IA. Ou une IA, plus exactement. Alors, c'est plutôt à l'époque ChatGPT, mais ça veut dire que les Français, ça les intéresse. Et donc, quand le président met à la une un chat, mais un chat français, eh bien, ça donne un regain d'intérêt. Alors, le chat Mistral français a été valorisé plus de 6 milliards d'euros. Donc, on est fiers. Cocorico, nous rentons dans la cour des grands. On a même des tas d'utilisateurs qui sont extrêmement surpris, parce qu'on aime bien... critiqué en France, donc on partait de l'idée que c'était pas bien, qu'on était moins bien, qu'ils répondaient moins bien. Eh bien non, même les gens qui sont plutôt pointus sont agréablement surpris par la qualité de Mistral et globalement la comparaison est plutôt flatteuse pour Mistral, au point où vous avez des classements, vous savez, que ce soit sur Apple ou que ce soit sur Android, vous avez des classements pour dire si quelle est la meilleure des applis, et Mistral est de loin devant à chaque fois. Donc on est très fiers, donc ça fonctionne bien. Et comme on est très fiers, les politiques se disent je vais montrer que moi aussi je suis moderne. Donc je vais aller poser des questions pertinentes et intelligentes à Mistral. Et donc ça donne des questions qui font beaucoup rire les internautes. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle des questions de boomer. C'est des questions, elles sont basiques. Et quand on utilise de l'intelligence artificielle, c'est pour des questions un peu plus pointues et presque toujours auto-centrées. Donc là, on a Jean-René Cazeneuve qui a posé une question assez essentielle qui montre que l'intelligence artificielle est pointue. Dis-moi, le chat, quel député a la plus belle moustache ? Eh bien, c'est lui. Formidable, on est trop contents. Voilà. Après, vous avez Madame Yael Braun-Pivet.
L'IA s'est flattée.
L'IA s'est flattée, vous verrez. Mais en fait, l'IA n'est pas fait pour poser ce genre de questions. Donc, ça a beaucoup fait rire les internautes. Vous avez Madame Braun-Pivet qui a posé une question qui est en une phrase. Quel est le plus beau pays du monde ? Le plus beau pays du monde est la France. Voilà. Donc, elle est très contente. Elle dit, mais c'est un un lien formidable. Sauf que, en fait, en réalité, on ne peut pas poser des questions aussi simples. Mais le pompon, celle qui a vraiment, vraiment réjoui les internautes, c'est Madame Valérie Pécresse. Alors, elle n'a pas utilisé Mistral, mais elle a utilisé l'IA. Elle trouve ça formidable parce que, figurez-vous, j'ai un très bon bilan. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ChatGPT. Donc, c'est l'intelligence artificielle, c'est formidable. Donc, je passe l'interview, mais en gros, elle dit bah, « c'est bien ». C'est bien. Elle a posé une question qui était « Est-ce que j'ai un bon bilan ?» Et oui, elle a un bon bilan.
C'est donc, bien voilà. Parce qu'ils ne sont pas trop concentrés, ces gens.
Non, hein, c'est bien, mais surtout... alors, évidemment, c'est le truc, mais les internautes, les blagues de boomers, ça les fait toujours rire. Mais là, c'est vraiment des questions de boomers. Quoi. Personne ne se sert de l'intelligence artificielle pour poser ce genre de questions, sauf les politiques.
Ouais. Alors, je crois que vous vouliez aussi faire un détour... vous aimez bien aller aux États-Unis?
Moi, j'aime bien. Alors, j'aime bien pour plein de raisons. Alors là, il y a un petit lien, parce que donc, vous avez compris que l'IA, il y a un sujet France-États-Unis, voilà. Alors évidemment, France-États-Unis, ça a donné des affrontements fort subtils entre M. Musk et M.
Xavier Niel.
Voilà.
Aussi subtil.
Alors évidemment, c'était plutôt du côté français, parce qu'il n'est pas très très connu. Alors je vous laisse regarder. M. Niel, donc, a qualifié Elon Musk de connard. Je répète juste ses propos. Donc subtil, délicat. Alors, grosse surprise, Elon Musk lui a répondu subtil, délicat aussi. Donc il lui a répondu. Et en gros, il a dit ce type voilà, qui aurait été envoyé en prison pour avoir été un proxénète avec un groupe de prostitution. Enfin bref, en gros, délicat. Enfin, on est, voilà, on est, bah, y a du niveau, quoi. Hein, c'est intéressant. Voilà, c'est subtil. Mais en même temps, je vais vous dire, chez Musk, on n'est pas trop étonné par le manque de subtilité.
Et oui, c'est l'idée en plus. Hein,
c'est l'idée, voilà. Et puis l'autre avait commencé, c'est comme dans la cour de récré, c'est toi qui as dit le premier, oui. Enfin tout ça. Mais chez Musk, on n'est jamais, jamais surpris. Alors je vais vous montrer un petit exemple de ce qu'il arrive à faire cette semaine. Par exemple, il a été à la Maison Blanche et il a emmené son fils au prénom improbable que je ne vous citerai pas. Qui, voilà, alors ça fait le régal de Instagram et TikTok, avec ce petit garçon qui nettoie très très bien son nez, sachez-le, professionnel, le gamin, un truc franchement nickel. Et ce petit garçon, il a, au-delà d'avoir bien nettoyé son nez à la Maison Blanche à côté de M. Trump,
et mettre sous bureau.
Dans le truc, non, on ne sait pas, la vidéo ne va pas jusque-là. Mais ce petit garçon, il a aussi fait un truc incroyable que plein de gens aimeraient faire. Il a parlé à son papa, et voilà ce qu'il lui dit, tranquillo. Et il le dit à Trump. Alors, on n'entend pas bien le son, mais le texte le dit. C'est qu'il lui dit bah, « I want you to shut your mouth. Oh, » go ta gueule. Et ça a été passé en boucle en disant « Voilà, bon, voilà, c'est l'univers formidable de Trump, de Musk, tout ça. » Donc voilà, donc dans le fond, les réponses qu'il a fait à M. Niel, je ne sais pas. En tout cas, ça a bien fait rire les Américains. Et puis, de toute façon, on est dans ce monde virtuel. On en a parlé plein de fois. Les fake news, c'est quoi aujourd'hui? On ne sait plus, c'est compliqué, parce qu'on est dans l'univers de Trump. Alors, Trump, il a fait un autre truc dans la même veine cette semaine. C'est pour ça que j'aime bien aller aux États-Unis, parce qu'on n'est jamais déçu. Figurez-vous, on peut se demander si c'est une fake news, mais non. Donald Trump a donc créé le Bureau de la foi, qui est dirigé par sa prédicatrice Paula White, qui a déclaré « Dire non à Donald Trump, ça aurait été dire non à Dieu ».
Ah oui.
Et alors en fait, il a expliqué que Dieu l'a sauvé. Donc il a créé, Dieu l'a sauvé pour diriger les États-Unis.
Bien sûr.
Donc on se dit, ben voilà. Alors moi, j'ai cru au début que c'était une fake news, non. Et toujours dans la série fake news, qui n'en est pas une. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ben figurez-vous que Buddy Carter, qui est donc un député républicain, a présenté une loi pour qu'on change le nom du Groenland. Parce que c'est vrai, c'est pénible, ces pays qui ne s'appellent pas exactement comme on voudrait. Donc lui, il propose que ça s'appelle rouge, blanc et les terres rouges, blanc et bleu. Alors on a beau lui rappeler que le Groenland, c'est quand même un territoire autonome danois, mais non, il a proposé ça. Et c'est en train d'être discuté, c'est formidable. Donc là aussi, voilà, c'est de plus en plus difficile d'identifier les vraies, les fausses informations. Parce que c'est une vraie information. Est-ce que ça passera? C'est un autre sujet, mais voilà, moi je trouve les États-Unis, c'est pas mal. Donc on ralouillait, on disait, voilà, ils sont pas formidables nos politiques. Moi je dis, on a encore de la marge.
C'est bon, on met du temps à les rattraper. Merci, ouais. Ma chère Véronique, pour cette brillante chronique. Merci à tous. Vous voulez y rajouter?
Je voulais donner un conseil, si c'est possible.
Ah oui, très vite.
Parce que je suis très consommateur d'IA. Mais Israël a l'avantage de donner désormais des sources. dans lesquelles, sur lesquelles on peut cliquer et on a accès aux sources. Les autres ne le font pas encore. DeepSeek, le chinois, donne maintenant des sources si on les lui demande. Oui. Et donc, moi, le conseil que j'ai à donner, puisqu'ils ont tous des versions gratuites en français, c'est quand vous vous posez une question, posez-les à toutes. Oui, et avec l'ensemble, faites-vous votre propre opinion.
Oui. Et puis des vraies questions, des questions qui utilisent l'intelligence artificielle.
Par exemple, merci.
Une bonne émission de télévision.
Merci à
Florent Simon. La meilleure émission.
Vous ne voulez pas vous arrêter là.
Oui, on rend.
Allez. Merci à Florent Simon, merci à tous, à très vite.